Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Le Palou et le MLC, main dans la main, en route vers les prochaines élections. Le parti de Gizenga et celui de Jean-Pierre Bemba ont officialisé leur rapprochement aujourd'hui à Kinshasa devant la presse. Une attaque des présumés ADF repoussée ce matin par les FARDC à Mapobu dans le Nord Kivu. Les assaillants tentaient de reprendre contrôle de leur ancien bastion, désormais sous contrôle des FARDC. Bilan, deux assaillants tués. Et puis, lutte contre la rage canine. Une campagne est en cours au Kasaï central depuis la semaine dernière. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le ministre provincial de la Santé, Dr John Bimvulu. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce rapprochement entre le parti lumumbiste unifié et le mouvement de libération du Congo. Les deux partis ont officialisé leur rapprochement ce vendredi à Kinshasa devant la presse après avoir échangé sur la situation politique du pays. Au cours de cet échange, le Palou de Gizenga et le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo ont discuté sur le processus électoral de manière à conjuguer des efforts pour gagner ensemble les élections à venir. Des détails avec Askin Zibia.
Au cours de cette rencontre, le Palou et le MLC ont évoqué la nécessité du respect du calendrier électoral publié par la CENI. Ils ont discuté sur la problématique de la machine à voter. Pour les deux parties, l'usage de cette machine doit requérir un large consensus de parties prenantes au processus électoral. Autre point de cette rencontre, interpeller le gouvernement sur la caution électorale et l'application de la loi sur le financement public des partis politiques. Luigi Gizenga, secrétaire permanent du Palou, qui a représenté son parti avec Adolphe Mouzito, fixe l'opinion sur le rapprochement avec le MLC.
Ce sont deux grands partis nationaux. Nous sommes en train de discuter quel sera le cadre de collaboration. Ici, nous parlons surtout d'enlever les différentes difficultés que nous pouvons trouver sur la voie de l'organisation des élections.
Fidel Babala, qui a représenté le MLC avec Alexis Lenga, donne le sens de leur rencontre avec le Palou.
La loi et la configuration tant politique qu'ethnique de notre pays nous incitent à aller vers une fédération de forces qui veulent réellement l'alternance dans ces pays. Nous allons continuer de contacter avec les uns les autres de façon à faire une fédération qui nous assure une victoire lors des prochaines élections.
À l'issue de cette rencontre, les délégations du Palou et MLC ont exprimé leur volonté de faire acte de leur échange aux organes de leurs partis respectifs pour la finalisation des attentes des deux partis.
Dans l'actualité, notez aussi que plusieurs villes du pays ont connu ce vendredi une ambiance habituelle et normale malgré l'appel à la ville morte lancé par un collectif des mouvements citoyens, une initiative en mémoire des victimes des différentes marches des laïcs catholiques. À Kinshasa par exemple, la circulation est normale, les transports en commun, bus et taxis ont fonctionné comme à l'accoutumée, les embouteillages sont au rendez-vous, les marchés, boutiques et magasins sont ouverts. Parlons justement des manifestations pacifique au pays. Le COGESKI, collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, appelle le gouvernement à s'impliquer activement pour que cessent les multiples interpellations, arrestations arbitraires et autres enlèvements des jeunes congolais, ceci pendant ou après les manifestations pacifiques. Des leaders des divers mouvements et associations des jeunes réunis aujourd'hui par le COGESKI désapprouvent ce qu'ils qualifient de traque ciblée de la jeunesse qui n'encourage pas la décrispation du climat social et politique en RDC. Ils exigent par ailleurs des procès publics et médiatisés contre tous les agents de l'ordre qui font usage des balles réelles lors des manifestations pacifiques. Ousseni Fataki, coordonnateur national de COGESKI, s'exprime au micro de Billy Van Lutumba.
La société civile, depuis ces derniers temps, est en train d'organiser des manifestations pacifiques à travers le comité laïque de coordination et les mouvements citoyens. Mais en fin de compte, nous sommes rendus compte que les forces de l'ordre interviennent avec une force excessive qui les amène même à tirer à balles réelles sur les manifestants pacifiques. Et de ce fait, nous voulons à tout prix qu'à l'avenir, qu'il n'y ait plus de morts quand il y a des manifestations pacifiques. Nous devons avancer dans notre pays avec les mesures de décrispation politique. Vous savez qu'il y a plusieurs jeunes qui ont été arrêtés. Nous demandons la libération de tous ces jeunes-là qui croupissent dans les différentes prisons de la RDC, même à l'ANR ici à Kinshasa, ils sont pleins là-bas. Nous voulons voir ces jeunes libérés dans les jours à venir. Pendant la manifestation, nous avons vu les éléments de la MONUSCO, ce qui a contribué un tout petit peu à la détente du climat. Et donc, nous encourageons des descentes sur le terrain de la MONUSCO. Nous voulons qu'à la prochaine, qu'ils les fassent sur toute l'étendue de la République et partout, il y aura des manifestations pacifiques. Nous voulons voir la présence de la MONUSCO à cet endroit.
Je vous le disais en titre, les FARDC ont repoussé ce matin une nouvelle attaque des présumés ADF à Mapobu. C'est une zone située dans le triangle dit de la mort entre les localités de Mbaoukamango et Eringeti, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Beniville. Nous sommes bien dans le Nord Kivu. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, les assaillants tentaient de reprendre le contrôle de leur ancien bastion, désormais sous contrôle des FARDC et où se trouveraient des carrières des mines. D'après le capitaine Makazuka, deux assaillants ont été tués. Il apporte d'autres précisions au micro de Martial Papimoukeba.
Dans les territoires de Beni, plus précisément dans les triangles dits de la mort, nos militaires qui sont basés à Mapobu ont été attaqués par un groupe de l'ennemi, ADF. Cette attaque a été efficacement repoussée. La fouille de la zone de combat se poursuit, mais déjà nous avons vu deux corps des ADF et nous avons récupéré quatre armes de type AK-47 et une radio Motorola. Nous pensons que l'ennemi regrette d'avoir perdu ce site et peut-être c'est pour cela qu'il essaye de venir attaquer cette position. On a appelé Mapobu carrière et je pense que effectivement il y aurait une carrière de mine dans cette partie. C'est peut-être pour cela que l'ennemi essaye de revenir là-bas, mais le travail se fait très bien déjà pour consolider cette position à Mapobu.
Restons en Nord Kivu. Les FARDC se déploient cette semaine déjà dans la chefferie de Bwito, dans le nord-ouest du territoire de Rutshuru, à plus de 150 km de Goma. C'est pour des opérations qui vont démarrer incessamment contre les groupes armés qui insécurisent cette région et alimenteraient les conflits intercommunautaires. Les représentants des communautés locales de Bwito ainsi que les autorités coutumières qui prennent part depuis trois jours au dialogue social de Kanyabayonga proposent une présence permanente des FARDC comme solution aux conflits sociaux armés dans le Bwito. Des précisions de Gisèle Cage qui se trouve dans la région.
Après l'attaque de groupes armés, l'armée devra consolider ses positions sur l'ensemble de la chefferie de Bwito, ont proposé les participants au dialogue des Kanyabayonga. Ceci permettra de réduire les tensions entre les communautés alimentées par des groupes armés d'obédience ethnique. D'après eux, l'armée, après chaque opération de traque, s'est retirée de Bwito sans consolider ses arrières, ce qui donne libre champ aux groupes armés de réoccuper le terrain. Jiris Kajibwami, directeur des cabinets du ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu, pense que cette situation pourra être corrigée.
Il y a peu, le gouverneur avait annoncé l'arrivée des troupes en renfort, parce qu'il y a aussi un problème d'effectifs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces troupes sont aujourd'hui à Nyanzale. Je crois fermement que si les forces armées traquent et qu'ils restent, et que nous-mêmes, comme autorité civile, nous nous mettions à la tâche pour sensibiliser la population à ne plus verser dans cette confrontation, je crois qu'on peut espérer que la paix va revenir dans le Bwito et dans le sud de Lubero.
Durant les trois ans des conflits interethniques dans le Bwito, l'ONU a enregistré des centaines de morts et des maisons incendiées et au moins 300 000 déplacés, selon un représentant du gouverneur dans la région de Kanyabayonga, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Parlons à présent de ces conditions de vie difficiles des femmes rurales déplacées de Djougou en Ituri, se trouvant actuellement à Bunia. Elles sont regroupées au site de l'hôpital général. Dépourvues de tout, vivant loin de leur champ, elles ne se sentent pas concernées par le thème national de la journée des droits des femmes pour transformer leur vie. José Deschartes Menga les a visitées dans ce site. Voici son reportage.
Les Congolais qui ont fui la guerre dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions infrahumaines au site des déplacés de l'hôpital général. La majorité est constituée des femmes et des enfants. Ces mères passent nuit à la belle étoile. D'autres dans des cabanes de fortune ont assez pêle-mêle comme des poules. Le pasteur Ignace Bingui, un volontaire qui les encadre, en témoigne.
Elles sont dans les petites tentes. Avec le soleil, il y a la chaleur. Avec la nuit, il y a le froid. 100% de femmes sont des femmes qui viennent du milieu rural. Elles sont bloquées à tout. Donc ils ne peuvent pas aller au champ, donc ils sont maintenant dans une vie de dépendance.
Ces milliers de femmes rurales, éloignées de leur terre, ne peuvent pas être utiles pour transformer la vie. L'une d'elles, venue du village de Kwangaza, exprime son regret.
Nous sommes le 8 mars, mais nous vivons dans la misère. Moi je viens de Kwangaza, nous avons fui le massacre. Nous avons vu beaucoup de cadavres. C'est ainsi que nous avons fui. Moi, j'avais mes champs. J'ai laissé mes pommes de terre prêtes à être récoltées. Mais j'ai tout laissé. J'ai tout abandonné.
Ces paysannes portent des blessures dans leur corps. Victimes d'un conflit qui n'a pas encore dévoilé son visage, elles ne peuvent pas être des moteurs de développement. Les festivités du mois de la femme, ce n'est pas pour ces visages tristes qui n'ont rien à faire de la politique. Du camp des déplacés de Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Restant dans l'ancienne province orientale, la commission diocésaine justice et paix de Dungu a fait hier son évaluation de la situation sécuritaire dans les territoires de Dungu et Nyangara dans la province du Haut-Ouélé et le territoire d'Ango dans la province du Bas-Ouélé. Il ressort de cette évaluation que le mois de février a été le mois le plus meurtrier des tueries, des enlèvements, des pillages, des incendies des brousses et des champs par la LRA et les éleveurs Mbororo ont été rapportés dans ces territoires. Jean-Pierre Bagoudé, qui est président de la commission de ces injustices et paix de Dungu, revient sur le bilan de ces attaques. Il est joint au téléphone par Anselme Massoua.
Pour le mois de février, les forfaits attribués au Mbororo et la LRA s'illustrent par ces chiffres. 6 morts et blessés dans la localité de Ango, 6 attaques armées contre les civils, plusieurs pillages et incendies, dont celui de Ndenge, localité de Eveka, et de Longo, Baga, Diagbe, dans le territoire de Dungu et Nyangara. 23 embuscades dans le triangle de la mort, donc les localités de Nambia, Djilima et Bangadi. Au total, il y a eu 11 morts, 6 personnes kidnappées. Il y a 24 embuscades tendues, une centaine de personnes pillées et les otages. Signalons par ailleurs que 3 filles âgées de 10 à 15 ans sont sorties de la brousse. Elles ont réussi à s'échapper.
Pour sa part, le porte-parole des FARDC du secteur opérationnel Ouélé affirme que son secteur vient d'intensifier des patrouilles de combat pour éradiquer le phénomène LRA et les groupes armés dans le Haut et Bas Ouélé. Et comme vous venez de l'entendre, la paix totale n'est pas encore établie dans l'est du pays, alors que cela fait 5 ans depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord signé entre les États de la région des Grands Lacs sous l'égide des Nations Unies visait à rétablir justement la paix dans la région à travers notamment l'élimination des groupes armés. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba regrette que cet objectif ne soit toujours pas atteint. Le général Denis Kaloumé Numbi a évalué cet accord aujourd'hui à Kinshasa. Il est au micro de Paul Matendo.
Nous devons savoir que cet accord a mis en place un cadre qui a permis aux anciens belligérants de pouvoir se concerter et de mettre ensemble une approche concertée pour faire face aux forces négatives sur le terrain. C'est ce qui a permis à ce que cette brigade d'intervention se mette en place. C'est ce qui a permis à ce que les forces armées congolaises, avec l'appui de cette brigade bien sûr, puissent comme ça rendre la vie difficile aux forces négatives des FDLR. Il y en a qui ont été par la pression militaire, obligé de venir déposer volontairement les armes. Vous avez d'autres FDLR qu'on a désarmés d'une manière forcée, et beaucoup qu'on a mis à la disposition de la MONUSCO pour qu'ils puissent rentrer au Rwanda. Les ADF, pour le moment, fortement affaiblis. Ils ont même changé de mode opératoire, donc affaiblis, mais continuent à être nuisibles. Et quand vous parlez des M23, la même chose. Ils ont été battus par 2 fois, ils ont tenté de venir. Donc ça a permis quand même de mettre en place une paix relative, bien qu'il y ait une résurgence et que la paix totale n'est pas là.
2 morts et plusieurs maisons incendiées, bilan des nouvelles tensions intercommunautaires mardi et mercredi dans la province du Sud-Ubangi. La situation demeure encore très tendue aujourd'hui entre les secteurs de Songo et de Bamboma dans le territoire de Kungu. Des forces de l'ordre y ont été dépêchées pour rétablir l'ordre. Récit des faits avec Paul Richard Malengela.
Les témoignages concordants affirment que tout est parti de la mort mardi dernier d'un commerçant de Bosso Dongo, secteur de Bomboma. Son corps a été découvert enfoui dans la brousse à son retour du marché d'Ngbonga, secteur de Songo où il était allé vendre ses articles. En représailles, ses frères de la communauté Bomboma vont descendre le mercredi au village où a été retrouvé son corps. Ils vont y abattre un habitant et incendier plusieurs habitations avec d'autres dégâts matériels. Suite à cette attaque, les autres habitants d'Ngbonga se sont sauvés dans la forêt. Jusqu'à jeudi, le village était tout désert. Depuis, des hommes d'Ngbonga et de Bomboma, munis d'armes blanches et de fusils de chasse, se préparent pour un nouvel affrontement, ajoutent nos sources. Le gouverneur intérimaire a dépêché une force d'interposition mixte police-FRDC en vue de rétablir le calme. Pour l'instant, la population qui y avait fui continue à demeurer dans la forêt et la tension est restée encore vive ce vendredi matin, ce qui nécessite également l'intervention des dignitaires de deux communautés afin de ramener la paix dans la région. Des observateurs craignent que cela puisse dégénérer à l'instar de l'insurrection du MLA de triste mémoire et que les efforts de développement et le processus électoral en cours dans la province ne soient mis en cause, estime-t-il. Bandaka pour Chamanégué, la radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré hier à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à tourner la page sur les propos attribués au président américain sur les pays de merde. Au cours d'une rencontre d'une heure au siège de l'UEA, les deux diplomates ont parlé de contre-terrorisme, sécurité, commerce, développement, corruption et conflit. La visite du secrétaire d'État américain s'inscrit dans le contexte de la polémique sur les pays de merde. Donald Trump aurait utilisé cette expression pour qualifier Haïti et des pays africains lors d'une réunion à huis clos au mi-janvier, selon plusieurs médias et un sénateur qui y a participé. En Espagne, des millions de personnes se sont mobilisées hier pour les droits des femmes en participant à une grève générale féministe sans précédent dans le pays et à d'énormes manifestations à Madrid comme à Barcelone. Dès le matin, la radio la plus écoutée par les Espagnols, la Cadena Ser, avait perdu ses voix féminines. À la télévision, des stars des émissions matinales avaient spectaculairement déserté les plateaux. Dans les gares, 300 trajets des trains avaient été annulés pour cause de grève et toute la journée, les métros de Madrid et Barcelone circulait moins fréquemment. En début de soirée, à Barcelone, quelques 200 000 personnes ont défilé au cri de « Vive la lutte féministe », selon la police. Et au même moment, le violet, couleur traditionnelle du féminisme, dominait à Madrid. Les cortèges des centaines de milliers de manifestantes de tous les âges, parfois accompagnés d'hommes. Et pour terminer, un journaliste camerounais en reportage chez un ex-ministre samedi, au lendemain de sa sortie du gouvernement, a été humilié et maltraité par le service de l'ordre de ses ministres, a indiqué l'ONG Reporters sans frontières. Après s'être présenté aux gardes à l'entrée de la résidence, le journaliste a été arrêté par le service de l'ordre du ministre, puis déshabillé, violemment giflé, placé dans une cage pour les chiens et aspergé d'eau, affirme l'ONG dans un communiqué. Accusé d'espionnage, il a subi un interrogatoire musclé pendant plusieurs heures, selon RSF. Le journaliste du quotidien camerounais Le Jour était en reportage chez Alain Edgar Mébé, qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions de ministre des Transports lors d'un remaniement ministériel le vendredi dernier.